Madrid.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
On apprend que Kate Middleton vient d'être diagnostiquée d'un cancer. C'était ça la nouvelle qu'on essayait de cacher. Et ben, on apprend aujourd'hui, c'est CNN qui l'affiche, que l'épouse du prince William, Kate Middleton, souffrirait d'un cancer. On ne sait pas encore de quel cancer s'agit-il. Mais on se rappelle que dans les dernières semaines, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'ils sont encore en couple? Quelle est cette opération qu'elle a dû subir rapidement? Force est de constater que c'était une question de santé. Donc, la famille royale britannique qui passe par des moments très difficiles parce que le roi Charles III souffre d'un cancer, on le sait. Et maintenant, c'est Kate Middleton qui se rajoute à cette liste. On leur souhaite le plus prompt des rétablissements. On va suivre finalement quel cancer elle souffre, mais probablement que ça va créer tout un remous international là, pour on sait qu'elle a 42 ans, mais on dit qu'elle va aussi commencer un nouveau traitement sous peu. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Des dizaines de Québécois étaient convaincus d'avoir acheté en ligne des produits fabriqués ici. Ils ont été floués en recevant une marchandise bas de gamme provenant de la Chine. C'est une arnaque qui est payante, qui joue sur la corde sensible de l'achat local et fait de plus en plus de victimes. Il y a Marie-Claude Paradis Desfossés, journaliste d'enquête à JE. Bonjour Marie-Claude.
Allô Yasmine.
Toi, t'as enquêté là-dessus.
Oui, voilà. On a rencontré plusieurs consommatrices flouées. Ce qu'il y a de particulier avec cette fraude-là, c'est qu'on cible surtout des Québécoises en 30 et 60 ans qui sont sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, Instagram. Et là, ce sont des publicités avec des noms d'entreprises très québécois, par exemple stylenordique.ca, Laurie Morin ou encore juliefortin.ca. Donc, tout de suite, on installe ce climat-là de confiance. Les gens disent, c'est une entreprise québécoise. Et là, on promet des produits qui risquent d'intéresser ces consommatrices-là. En l'occurrence, des manteaux, des bottes. Et on joue sur la corde sensible de l'achat local et de la fierté aussi québécoise en disant ce sont des produits faits avec le savoir-faire québécois, prêts à faire face aux rigueurs de l'hiver. Mais là, ce que reçoivent les gens, c'est pas tout à fait ça. Donc, je t'ai apporté quand même un exemple. Je sais que t'es magasiné. Moi aussi, là, je l'avoue. Alors, les gens, on pourra peut-être voir d'ailleurs sur le site, sur votre site, la publicité en tant que telle de Style Nordique qui proposait des manteaux, soi-disant des manteaux très chauds, il faut au Québec. Bon, finalement, c'est un peu en plus. C'est
le genre d'affaire que tu portes le dimanche matin, là, parce qu'il pleut dehors, tu sors pas, puis tu veux regarder Netflix toute la journée.
Oh, j'avoue qu'au bureau, on hésitait entre tapis de bain et manteau.
Mais tu le portes juste un dimanche, parce que tu peux pas le laver.
Exactement, sinon ça s'effiloche un petit peu. D'ailleurs, il a commencé, j'ai traîné aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que les gens... Et là, il y a des rabais avec tout ça. Là, ce manteau-là est en spécial, si je me souviens bien, à 60 $, un rabais
60
intéressant.
60 $?
Puis on nous promet que ça va jusqu'à peu près à moins 30. Et la photo, dans le fond, quand on regarde la photo pour nous le vendre, tu sais, on peut comprendre les gens en fait comme « Ah, ça a l'air chaud parce qu'il y a comme une doudoune en dessous, puis ça a l'air pas pire. » Mais là, il y a des rabais et des commentaires, des avis de clients, bien sûr. Tout le monde est satisfait. Mais c'est une arnaque, finalement. Et les gens commandent et sont déçus. Et après ça, c'est difficile de se faire rembourser. Et ça, c'est quand les gens reçoivent leur marchandise. Parce que c'est pas tous les clients. D'ailleurs, on peut peut-être écouter ensemble un extrait de l'émission de ce soir où on entend les clientes flouées, notamment par Style Nordique.
Madame Martineau n'a jamais reçu sa commande.
J'ai reçu une confirmation que mon colis était en route. Puis pour suivre le colis, quand je cliquais sur « Suivez votre colis », c'est une page d'erreur qui apparaissait.
Rosanne Côté, elle, a reçu son colis.
C'est ça.
Mais à l'intérieur, il y avait une veste d'automne de la mauvaise grandeur et fabriquée en Chine. Déçues et avec le sentiment d'avoir été flouées, elles ont entrepris des démarches.
Ce que j'ai fait, j'ai retourné à l'adresse qu'ils m'avaient envoyée. C'était l'adresse de Granby.
Le hic, c'est que le manteau de Mme Côté s'est retrouvé ici, comme beaucoup d'autres, chez Déménagement Machinerie Granby, en plein cœur d'un parc industriel.
Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun manteau, aucun boîte de vêtements qui peut être ici. Là. On a juste des équipements. Des équipements et de la machinerie lourde.
Des équipements?
Oui.
De la machinerie lourde. Mais comment... moi, je veux me mettre à la place là, de ces commerçants qui, finalement, doivent faire face à une clientèle qui est fâchée, qui pense que c'est des voleurs.
Ben, ça n'a pas rapport. Tu sais, là, on est en plein parc industriel. Et là, elle commence à avoir des appels en novembre de clients insatisfaits. Le premier... Là, les colis commencent à arriver. Là, ils essaient d'intercepter Post Canada en disant... Ben, pas nous autres. Là, on n'est pas une entreprise de vêtements ici. On a juste la machinerie lourde. Donc, on commence à gérer les colis de retour avec des lettres de clients insatisfaits, des mises en demeure également. Et là, ça afflue. Là, c'est des dizaines d'appels. Et là, ce qu'elle m'expliquait, Mme Fecteau, c'est avec mes employés, on a essayé de rejoindre au départ les clients, de leur dire c'est pas ici. Mais en même temps, là, les gens nous les envoyaient à leurs frais. Mais sinon, on gérait le colis, c'était à nos frais. Donc là, ils se sont mis à empiler les manteaux. Il y a des clients qui se sont déplacés aussi sur place. Puis ils voyaient bien, une fois rendus sur place, qu'il n'y avait pas de manteau. Mais ce que les entreprises... Dans le cas de machinerie, déménagement machinerie Granby, eux, ils ont dû gérer les colis, mais c'était clairement pas une entreprise de vêtements. Mais la vraie aussi entreprise, Style Nordique, .com, qui est basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et cet entrepreneur-là, lui, se spécialise dans la vente de pantoufles et de mitaines Inuit qui proviennent du Nunavut. Et là, il dit, moi, là, j'ai commencé à avoir des messages sur ma page Facebook. Attention, fraudeur. Je me faisais accuser, je me faisais invectiver. Et là, pendant 2 mois, je me suis retrouvée à défendre l'intégrité de mon entreprise alors que je devais vendre. Je suis une jeune entreprise, je devais vendre. J'ai perdu jusqu'à 75 % de mes ventes. Et ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là, cognent à la porte à un moment donné de la police et on leur dit, dans les deux cas, on leur a dit, ben attendez que ça passe, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que ce sont des crimes qui font énormément de victimes, même si individuellement, les gens perdent peut-être une centaine de dollars. Mais si on regarde ça globalement, c'est beaucoup d'argent perdu, là.
Mais les forces de l'ordre, là, qui s'occupent réellement de faire la nomenclature du nombre de fraudes, les enquêter et finalement d'agir?
Ça, c'est comme un peu un trou noir. C'est pas la première fois que j'enquête sur des dossiers de fraude en ligne, notamment fraude à l'emploi. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le Centre antifraude du Canada, qui lui, collige l'information. Donc, si Yasmine, tu es victime d'une arnaque comme ça, ce qu'on te dit, c'est porte plainte et signale la fraude au Centre antifraude. Le Centre antifraude ne fait pas d'enquête. Il va colliger l'information. Ils vont dire, tourne-toi vers ton centre, ton poste de police local, qui vont prendre ta plainte et qui vont mettre finalement sur le tas de la pile parce que tu as perdu une centaine de dollars finalement. Ils n'ont pas vraiment le temps d'enquêter ni les ressources sur des entreprises qui sont éphémères, qui vont fermer et que de toute façon, les informations sont fausses. Ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, tout ça collige dans un entonnoir. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le centre antifraude, les corps policiers ne vont pas nécessairement partager l'information. Donc, pour la victime, la meilleure façon, c'est encore la prévention pour éviter de se faire prendre là-dedans. Il y a quand même des pays qui ont des initiatives. Il y a une plateforme qui s'appelle TC en France, j'espère que je le prononce comme il faut, par la police nationale française, qui justement a cette forme d'entonnoir-là. Donc, toutes les victimes de fraude, de petites fraudes, peuvent porter plainte à la même place. Et là, toutes les plaintes vont au même endroit. Et ensuite, on peut maximiser les chances de réussir des enquêtes. Il y a quand même des enquêtes qui sont faites au Canada. Tu vois, j'ai discuté avec les gens de la clinique de cybercriminologie qui est associée à l'Université de Montréal. Eux, ils ont le site Fraude Alerte. D'ailleurs, super bonne plateforme communautaire où les gens peuvent signaler une arnaque, une fraude et vous avez accès à ces commentaires-là. Vous pouvez aussi commenter si vous avez été témoin ou victime de la fraude. Donc, c'est une ressource qui est fiable, qui sensibilise les gens. Mais en termes d'enquête, c'est rare qu'on réussisse à épingler ces commerçants-là frauduleux. Je parlais aussi avec un avocat d'Options consommateurs qui me disait, lui, le problème, ce n'est pas que la loi de la protection du consommateur au Québec, elle n'est pas assez sévère, c'est qu'on a de la difficulté à la faire appliquer. On peut peut-être écouter ensemble un deuxième extrait.
Bien sûr.
On dit qu'un commerçant fait du dropshipping lorsqu'il n'a pas en stock les articles qu'il vend. Lorsque vous passez une commande sur le site, elle est automatiquement transférée à un fournisseur qui lui se trouve parfois à l'extérieur du pays. C'est ensuite lui qui prépare et vous envoie votre commande. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que le dropshipping s'accompagne souvent de stratégies frauduleuses, comme nous l'explique Alexandre Plourde, avocat chez Options Consommateurs.
Le dropshipping, ça peut être souvent lieu de toutes sortes de fausses représentations, ce que la loi interdit. La loi, elle dit, tout ce que affirme le commerçant doit être vrai, doit être véridique, il ne peut pas omettre un fait important. Donc la loi, elle impose une charge importante au commerçant de s'assurer de dire toute la vérité au consommateur.
Je me suis dit, depuis les dernières années, ils nous encouragent d'encourager Québec. Donc je me suis dit, des bottes d'hiver fabriquées au Québec, parce que c'était intéressant de pouvoir sauver, avoir quelque chose.
Le dropshipping, Marie-Claude...
Ouais.
On dirait qu'on a toujours des nouveaux noms, des manières de frauder. Là.
C'est pas bien compliqué, dropshipping. Tu vois, sur Shopify, ouais. Ils vont te montrer comment faire. En gros, c'est que tu t'ouvres un site Internet de vente et ta commande...
N'importe qui peut faire ça.
N'importe qui. Et ta commande, tu travailles avec un fournisseur qui, lui, va s'occuper de préparer la commande et de l'envoyer au client. Donc, le commerçant qui fait du dropshipping, en gros, il fait son site Internet et il s'occupe du marketing. Mais la fausse représentation, c'est illégal. C'est lui qui l'a fait. Ça, c'est illégal. Les faux rabais, c'est aussi illégal. Et les fausses informations, comme une fausse adresse, ça aussi, c'est illégal. Donc, quand on dit que ça ouvre la porte à des pratiques qui, elles, le sont frauduleuses, c'est ça.
Et Shopify, là, ils font-tu quelque chose derrière ça?
Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de surveillance. Bien entendu, j'ai multiplié les demandes d'entrevue. On a complètement ignoré nos demandes. On a même un collègue qui s'est rendu sur place à Ottawa et impossible de parler à personne du côté de Shopify. Il y a des sites, ces trois sites-là, Julie Fortin, Laurie Morin et CNordique, sont fermés maintenant. Probablement que lorsqu'il y a trop de plaintes de consommateurs, ouais. À un moment donné, ça met de la pression.
Qu'on parle d'eux dans les médias.
Exactement. Et là, on ferme les sites. Mais c'est ce qui fait en sorte que ce sont des commerçants qui sont très, très, très difficiles à identifier. Et quand on disait que la loi est assez sévère, c'est qu'on n'arrive pas à la faire appliquer. Tantôt, je te parlais des policiers qui disent aux consommateurs puis aux entreprises, attendez que ça passe. L'OPC recueille les plaintes. Et fait aussi des avis de rappel. L'Office de la protection du consommateur se charge de faire appliquer la loi sur la protection du consommateur. Mais même eux nous disent que c'est difficile d'agir dans ces cas-là, étant donné que ce sont des entreprises éphémères avec beaucoup de fausses informations. Donc, il y a des moyens d'enquête qu'on veut pas nous communiquer. Mais ultimement, comme exemple que je peux te donner, c'est il y a des avis de rappel de la loi. Donc, ils ont envoyé un avis de rappel à Laurie Morin qui avait reçu plusieurs plaintes, mais à une adresse bidon sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, finalement.
J'espère que ces personnes-là n'habitent pas au Québec. J'espère que ces arnaqueurs-là ne viennent pas d'ici, parce que si c'est vraiment là essayer de profiter de ce sentiment qui est noble de vouloir encourager l'achat local puis venir mettre des bâtons dans les roues à des commerçants qui en arrachent déjà, là.
C'est clair que là, ça fonctionne finalement. Fécilia Rehm, justement, de la clinique de cybercriminologie, me disait c'est peut-être des gens du Québec, peut-être de l'extérieur, mais peut-être aussi du Québec parce qu'on cible les Québécois et les francophones et on connaît ce qu'ils aiment. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment se protéger. Peut-être des petits trucs faciles pour les gens. On se méfie des rabais, des commentaires qui sont trop beaux pour être vrais. Recherche inversée aussi. Vous prenez une capture d'écran, par exemple, sur le site où vous voulez commander. Il y a une petite lentille dans Google. Si vous voulez faire une recherche, vous cliquez là, vous glissez l'image, votre capture d'écran, et là, ça va vous sortir ailleurs où est-ce que vous pouvez acheter finalement l'article. Ce manteau-là, en vente en spécial, on se souvient sur Style Nordique à 60$, était aussi en vente à 9$ américains sur le site AliExpress. Donc, ça nous dit que c'est pas québécois. Visiblement et possiblement pas un manteau qui est chaud non plus. Donc, recherche inversée pour aussi vérifier là, si le commerçant en tant que tel a bonne réputation. Fraudealerte.ca, c'est peut-être un bon outil aussi dans ce cas-là.
Faites vos vérifications, cherchez le fournisseur, essayez de le connaître le plus possible. Restez dans les sites que vous connaissez, ne vous aventurez pas dans les sites un peu plus inconnus. Marie-Claude Paradis-Desfossés, journaliste d'enquête à l'émission JE. Toujours un plaisir de te recevoir. Viens plus souvent nous voir, on aime ça.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
À la prochaine.
JE ce soir, 20h, avant-dernière de la saison.
C'est bon.
Bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Des centaines de travailleurs étrangers temporaires mexicains qui ont du mal à obtenir leur visa pour venir ici pourraient ça pourrait compromettre le début de saison, faire exploser le prix des légumes, pousser certaines fermes à la faillite, et à plus forte raison lorsque le ministre fédéral annonce qu'il y aura des baisses dans le nombre d'immigrants temporaires, de travailleurs temporaires qu'on va recevoir. On va poser la question à Fernando Borra, directeur général de Ferme. Bonjour, Monsieur Borra.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Dites-nous, votre réaction suite à l'annonce de Mark Miller hier ou avant-hier, lorsqu'il annonçait que les travailleurs temporaires, ça va diminuer un peu, pas beaucoup, mais ça pourrait toujours avoir un effet.
Oui, mais ça, je pense qu'elle parle surtout des travailleurs à bas salaire, donc j'espère que l'agriculture sera épargné parce que les employeurs ont vraiment besoin des travailleurs. C'est ce que comprennent des entreprises, c'est qu'il faut avoir que ces travailleurs étrangers parce que ça génère aussi de l'emploi de l'emploi local. Alors, c'est ça, les entreprises, pour être capables de continuer à poursuivre leurs opérations, ils ont besoin de la main-d'œuvre étrangère. Malheureusement, il n'y en a pas assez de personnes au Québec pour fournir tous les besoins de main-d'œuvre que les entreprises ont besoin. Et le fait d'avoir des travailleurs étrangers, mais ça génère des emplois locaux.
Mais vous pensez que les agriculteurs, notamment là, pour faire la cueillette en saison de cueillette, est-ce que vous pensez que les agriculteurs devraient déployer plus d'efforts pour aller recruter de la main-d'œuvre locale avant de sauter à l'option d'aller chercher des travailleurs agricoles étrangers?
Mais ça, les employeurs sont toujours très ouverts à recevoir les Québécois qui viennent dans les fermes. Vous savez, pendant le temps de la pandémie, les options étaient là pour eux de venir et sont toujours bienvenus. Il y a beaucoup de postes en agriculture qui sont pas comblés, malgré qu'il y a tous les travailleurs agricoles qui viennent année après année. Les portes sont ouvertes pour les Québécois d'y aller travailler, mais malheureusement, ils sont pas. Alors, si on veut continuer à avoir une agriculture comme on la connaît, il faut continuer à faire venir ces gens-là. Le Canada fait des produits, excellents produits, des produits frais. Alors, si on veut continuer cette agriculture, mais ça, les employeurs n'ont pas le choix d'aller par les travailleurs étrangers.
Les travailleurs temporaires étrangers, leur nombre a complètement explosé au courant des dernières années. Il commence à y avoir des inquiétudes tant en matière de logement qu'en matière d'intégration, en matière d'inflation, de services publics. En même temps, on entend que ce soit le milieu agricole ou même d'autres milieux, le milieu de la transformation agroalimentaire notamment, nous dire que diminuer le nombre de travailleurs étrangers pourrait miner la rentabilité ou à tout le moins l'existence, en fait, jusqu'à l'existence même de ces organisations. Est-ce que vous irez jusqu'à dire qu'une diminution des travailleurs temporaires agricoles pourrait porter atteinte à tout le secteur?
Mais c'est sûr que si les travailleurs agricoles sont pas là, sur l'employeur, ils font venir les nombres de travailleurs dont ils ont besoin pour faire la saison. Donc ça, ils vont pas faire venir plus de travailleurs. Ils ont des 10 travailleurs, mais ils vont faire venir 10 travailleurs. Et ils ont besoin de ces 10 travailleurs, soit pour la façon dont la récolte s'est faite à la ferme. Ils ont besoin de ces gens-là. Si ils ont pas assez de main d'or, donc la production sera réduite. Donc là, ils vont produire moins, ils vont diversifier peut-être les types de cultures qu'ils vont faire. Donc ça cause qu'il y aurait une pénurie peut-être des produits frais canadien ou québécois.
On dit que les travailleurs étrangers temporaires mexicains ont du mal à obtenir leur visa depuis la décision de réinstaller et réexiger le visa aux ressortissants mexicains et que ça pourrait faire exploser les prix de fruits et légumes. J'étais sous l'impression que les visas n'étaient exigés que pour les touristes. C'était aussi le cas pour les travailleurs étrangers temporaires?
C'est ça, quand le gouvernement a fait l'annonce, c'était marqué clairement que les travailleurs agricoles étaient épargnés de cette nouvelle procédure pour obtenir une étampe dans les passeports. Malheureusement, c'est pas le cas. Depuis le 29 février, les travailleurs agricoles aussi doivent envoyer les passeports à l'ambassade pour mettre l'étampe. Et c'est là où on a la difficulté maintenant parce qu'il y a pas encore une procédure claire jusqu'à hier ou avant hier. Les Mexiques n'avaient pas encore commencé à envoyer les passeports à l'ambassade parce qu'il y a la façon de le faire, c'est pas encore clair. Alors, il y avait déjà des visas qui étaient en attente ou des autorisations de voyage qui étaient en attente à l'ambassade. Je pense dans les temps libanais, c'était comme 3000 demandes qui étaient en attente, plus toutes ces demandes qui n'ont pas été envoyées depuis Lebanef. Alors, c'est là où on a l'inquiétude que pour partir de la saison, quand le printemps actif va commencer, les travailleurs peut-être seront pas prêts pour venir et c'est là où on risque d'avoir des problèmes. Et
À partir de quel moment on a besoin des travailleurs? À quel moment commence la saison là de récolte notamment?
Mais c'est ça, donc là, la plupart des travailleurs les employeurs avaient prévu l'arrivée de leurs travailleurs vers la fin de mars, début avril.
On y est.
Donc là, les Mexiques quand même avaient préparé des travailleurs. Donc on a des travailleurs qui étaient prêts à voyager, qui ont réussi à passer avant que le temps soit demandé dans les passeports. Donc on a un certain nombre de travailleurs qui sont prêts. Mais par exemple, si je vois les chiffres pour les employeurs des fermes, il nous manque à faire venir pour la fin, d'ici la fin de mars, peut-être 300 travailleurs. Mais en avril, on a 2500 travailleurs qui doivent être présents. Donc, s'ils sont pas là pour partir la saison, donc c'est là où les risques, parce que l'employeur, s'il peut pas planter les champs, donc c'est là que les retards commencent à se sentir et ça pourrait être difficile.
Évidemment. Fernando Borja, directeur général de Ferme, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance.
Merci pour votre temps.
Merci.
Politique. Environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle.
Yasmine, la chronique avec Marie-Claude Paradis, là, le sujet de GIE, ça a fait énormément réagir parce que on se rend compte à quel point on est plusieurs à tomber là, un petit peu dans le panneau. Puis je voulais te lire le témoignage de Linda, qui nous a envoyé un bon courriel quand même. Elle nous dit « Expérience désastreuse et coûteuse d'achat en ligne ». Elle a reçu les vêtements commandés, qui étaient évidemment à un prix alléchant, à la limite trop beau pour être vrai, après avoir déboursé un montant de dédouanement bien plus élevé le coût de ces fameux vêtements, évidemment. Tous les vêtements reçus ont un dénominateur commun. Ils sont tous laids. Égaux, avec le même tissu dont elle n'est pas capable de définir la source, des coutures qui sont inégales, qui font onduler le tissu avec des retailles pour compléter les bouts manquants. Puis elle dit, c'est sans parler des tailles qui ne conviennent pas, là. T'sais, elle dit, une taille small, ça équivaut quasiment à du XX small. Donc, on joue un peu justement sur la perception de tout ça. Elle dit qu'elle n'a rien retourné, évidemment, à cause des frais de douane et des frais de retour que ça lui aurait coûté pour renvoyer. Bon, finalement, il aurait resté quoi dans ses poches? Donc, impossible à porter ni à utiliser comme guenille. Elle dit « Jamais plus, je ne me ferai prendre ». Elle dit deux choses. Ne jamais se fier aux images, parce que c'est rarement ce qu'on va vraiment avoir dans la boîte. Et vive le vrai magasinage où on peut toucher les tissus ou on peut essayer. Là,
Linda a peut-être perdu de l'argent, mais elle n'a pas perdu son sens de l'humour dans cette aventure-là.
Non, à vous.
C'est ce qui est plus important.
Effectivement, c'est pour ça que je voulais le lire parce que j'étais comme, c'est parfait comme témoignage. Merci beaucoup, Linda, d'ailleurs, d'avoir pris la peine de nous écrire. Ça montre justement à quel point on peut facilement se faire avoir avec toutes sortes de fraudes, vous me direz. On va poursuivre ton épisode, Yasmine, dans les prochaines minutes avec, entre autres, Pierre Nantel, évidemment, pour sa chronique là, à tous les vendredis. On va revenir sur l'affaire Yves Michaud et les propos de François Legault. Et vous savez que cette semaine, ce qui a fait beaucoup jaser aussi, c'est le Festival d'été de Québec et le fléau de la revente. Parce que là, les revendeurs s'en mettent en ce moment plein les poches. Et il y a notre collègue ici, journaliste à la recherche, Marianne Bessette, qui a jasé justement avec un revendeur. Il lui a dévoilé là, toutes ses tactiques pour arriver à mettre la main, entre autres, sur 19 laissés-passer. Lui, là, il avait usé, entre autres, de 8 carte de crédit Desjardins pour arriver à aller chercher le plus de laissez-passer possible. Et ce qu'on voit en fait en ce moment, c'est que il y a deux façons de louer des laissez-passer. Il y en a qui décident de louer des laissez-passer à tous les soirs. Donc, par exemple, quand c'est la fin de semaine, évidemment, on sait qu'il va y avoir plus de gens, un petit peu plus de demandes. Bien là, c'est 100 $ par soir pour louer un laissez-passer. La semaine, un petit peu plus tranquille, les gens travaillent, on y va peut-être un peu moins, 80 $ par soir. Mais là, le festival d'été, c'est 10 jours, donc faites le calcul, hein, on s'en met vraiment plein les poches. Donc ça, c'est la façon, un, de louer ses laissez-passer. L'autre façon, ben, c'est juste tout simplement de les revendre. Hein? On les a achetés à 150 $, qui est le prix du Festival d'été de Québec, mais là, pas plus fou qu'un autre. Pourquoi je les revendrais à 150 $? On en voit en ce moment sur les sites de revente à plus de 400. Même, j'ai vu du 575 $ pour des laissez-passer. C'est complètement fou, mais c'est le pire, là, justement, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui ont vraiment du culot. Là. Il y en a qui vont dire, j'ai deux passes à vendre à 325 $ chacune. Pour les chialeux, sachez que ça revient en bas de 33 $ par soir. Puis il y en a qui les louent à 60 ou 100 $ par soir.
J'aime
alors,
la voix
ce
que tu
n'est
fais.
Vraiment pas cher, OK?
J'aime la voix que tu fais.
Moi, je personnifie les gens qui...
Écoute!
Non, mais c'est parce que ceux qui écrivent ça, en plus, c'est bourré de faute. Donc, c'est pour ça que je pense que je l'associe avec...
Mais je trouve que tu
livres... Que je l'ai bien?
Tu l'as bien. Je trouve que tu l'as bien. Je t'imagine en Mean Girl.
C'est pas ma première interprétation.
Non, c'est
là.
Ça.
Tu vois, je me pratique souvent.
Lindsay Lohan sort de ce corps.
Exact. Non, mais en fait, je trouve ça un peu insultant. Tu sais que là, il essaie d'argumenter sur pourquoi c'est pas cher de revendre des laissez-passer à 325 quand ils coûtent 150.
Ça n'a pas d'allure.
C'est comme, voyons, à un moment donné. Mais c'est parce qu'il y en a qui disent, oui, je sais, je contribue à ça, mais en même temps, c'est pas moi qui le fais, c'est les autres. Fait qu'aussi bien m'en mettre dans les poches. Bref.
Des arguments de même, là.
Ouais. Sophie va en parler, justement, avec une mère de famille de Québec qui a été incapable d'avoir un laissez-passer pour la première fois en 16 ans. Donc, ça n'a pas été facile pour elle, là, de voir à quel point l'engouement puis la façon que, là, bon, il y a tout plein de revendeurs qui ont réussi à mettre la main là-dessus, mais pas elle. Donc, on va lui en parler en début d'épisode, l'épisode de Sophie qui commence dès 15h. Si vous voulez réagir, vous le savez, texto 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à commercial, le Cube. Radio.
Yasmin Abdel Fadel.
Je retrouve mon ami Pierre Nantel. Bonjour Pierre.
Bonjour, on est en train de parler de voiture.
Ben oui, voiture, avion, puis on va parler beaucoup d'avion parce que l'été arrive à grands pas, puis on est beaucoup à zioter les billets d'avion. Là, où est-ce que cet été on va partir, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va aller découvrir, sur quel continent on va atterrir.
Puis on en a besoin, hein?
Puis maudit qu'on en a besoin.
Ouais.
Moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup voyager, mais voyager, ça a un coût.
Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Voyager, c'est quelque chose que j'ai fait énormément, puis là, par hasard, dans la vie, je fais d'autres choses actuellement, puis je conduis beaucoup, j'ai une voiture semi-électrique, comme je te disais, et donc, on a tous nos péchés. La question n'est pas dans le fait, parce que le mot péché, je viens de le dire,
mais
la question n'est pas dans l'individualisation de la responsabilité. Il faut s'assurer, c'est à ça que ça sert. Tous les besoins d'un individu sont légitimes, mais c'est au gouvernement, c'est à nos politiques publiques d'encadrer ça. Puis je voulais qu'on s'en parle aujourd'hui parce que, clairement, tout le monde le sait, là, avec les événements météo qu'on a actuellement, on a des enjeux climatiques énormes. Je pense que j'ai vu qu'il a fait 62 degrés ressentis au Brésil récemment. Tu t'imagines, 62 degrés. Hey, bon, on a tous vu des feux de forêt, les hivers qu'on n'a pas eu cette année. Alors, tout le monde comprend qu'au niveau environnemental, il faut faire des efforts. Puis aujourd'hui, qui va prendre son journal du samedi puis le mettre dans les vidanges? Tout le monde sait qu'on recycle. Qui va s'assurer... On n'a pas le choix, d'ailleurs. Les politiques ont été installées dans les municipalités. On collecte, on composte.
Ben oui.
Non, on composte. Je veux dire, puis la réalité,
c'est quand même une belle évolution dans les 15 dernières années.
Absolument. Puis le fait qu'on fasse ces démarches-là, c'est souvent parce que on a décidé collectivement. Moi, on aurait tous pu composter. Il y en a qui compostaient, d'ailleurs, déjà. Mais on le fait parce que c'est simplifié puis qu'il y a un système qui est installé pour ça. C'est la même chose pour les écofrais. T'achètes une imprimante dans un magasin d'électronique, il y a comme un 3-4 $ qui s'en va directement à ça. Même chose pour les pneus. Alors, moi, je voulais qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que les efforts qu'on veut faire sont toujours un effort qu'on fait de façon personnelle. Puis on s'attend à ce que le système nous soutienne là-dedans. Dernier exemple, au niveau de l'alimentation, je pense que ça commence à rentrer. Tout le monde le sait... qu'une livre de bœuf, d'ailleurs, je t'ai apporté un tableau, le bœuf est comme, genre...
C'est beaucoup.
À peu près 20 fois plus polluant que le poulet. En termes... C'est-à-dire que pour faire une livre de bœuf haché, il prend une quantité gigantesque de ressources pour faire pousser le monsieur à quatre pattes. Tu sais pas si tu savais ça. Je pense que tu as avec toi le tableau qui
en
vient
fait,
de...
En fait, le bœuf génère 8,5 à 25 kilogrammes de CO2
exact.
Pour en obtenir 50 grammes de protéines.
Puis ça, pourquoi on parle de ça? L'important, c'est la comparaison. C'est très approximatif. C'est ça. Ça vient du ministère de l'Environnement du Québec. Fait que c'est pas
mais pourquoi
quoi.
Le bœuf serait plus polluant que, par exemple, le porc?
Ben, parce que en termes de ressources requises, donc plus de fourrage, plus de chauffage, plus de ci, plus de ça, en comparaison à d'autres... Bon, l'agneau, évidemment, c'est comme un petit bovin, fait que c'est pas pareil. C'est très similaire à quelque part. Mais effectivement, ce qui est le plus intéressant, c'est la volaille qui est, ouais, par rapport à, on est à 2,9 alors qu'on était à ils disent entre 8,5 et 25 pour ouais, le porc.
C'est ça le problème, Pierre, c'est qu'à chaque fois que quelque chose est bonne là,
on peut pas.
Regarde en haut de la liste là, c'est bœuf, agneau, crustacés, fromage. Ceux qui consomment pas, ben oui, c'est normal, tofu, légumineuses puis noix.
Exactement. Mais
je comprends.
Mais ça rentrait quand même, fait qu'on fait ces efforts là. Mais moi, je voulais te parler du voyage parce que justement, on est tellement tanné en général, c'était difficile la pandémie. Donc on a envie de voyager. Et si on regarde les choses objectivement au niveau scientifique, Les vols en avion sont très, très, très polluants. Et la norme toute simple, c'est de dire que, en gros, un vol aller-retour Montréal-Paris produit environ 2 tonnes de gaz à effet de serre par passager, ce qui correspond à 850 litres d'essence, donc la consommation de la moitié d'une consommation annuelle d'une voiture, pour aller faire un Montréal-Paris aller-retour. Alors, dans tout... Puis tout le monde le sait un peu, on s'en doute bien quand même. Puis évidemment...
Mais comment c'est calculé, ça, 2 à 4 tonnes de GES.
C'est-à-dire que tu peux aller, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'à Montréal, on s'en rappelle pas toujours, on a une agence de l'ONU, qui est l'Organisation internationale de l'aviation commerciale, oui. L'OACI, sur Sherbrooke.
Alors, c'est... Robert Bourassa.
Ah oui? Il n'était pas sur Sherbrooke avant?
Non.
Ah ben, coudonc. ça m'a rire. Bravo. Mais ceci dit, cette organisation-là a, par exemple, un calculateur qui est très, très complexe. Mais ça existe, ça se calcule, c'est scientifique, okay. On le sait. Alors, pourquoi est-ce que on exclut cette tarification de notre pollution, de notre utilisation? Pourquoi on l'exclut du billet? Pourquoi ça prend un curé super tatillon pour dire « Ah, je m'en vais à Paris, je vais faire 2 tonnes de gaz à effet de serre, donc je vais aller acheter un crédit carbone à 60 $, puis moi, ça va me coûter 60 $ plus cher, puis l'autre à côté, non. » C'est comme cette notion-là est un peu farfelue.
Tout le monde sont écœurés de payer. Il y a toujours une bonne raison de payer. Ouais, dans notre billet, on paye aussi un surplus pour l'essence.
Ah, bon, on paye
pour le kérosène.
Mais t'as bien raison. Puis on paye aussi, incroyable, 90 $ pour mettre une valise dans le soute. C'est quand même incroyable.
Puis pour avoir le droit de réserver ta place des heures
ça
avant
aussi,
les autres.
Ça aussi, c'est plus. T'sais? Effectivement. Donc, mais... On peut se dire, ça va faire, on peut aussi aller chercher Pierre Poilievre et dire, axe de taxe, tu sais, mon âme un peu.
Bon.
Mais la réalité, c'est que c'est reconnu. On sait que chaque pneu qu'on achète, il y a 3 $ qui est perçu par l'État pour le déchiqueter, le recycler, pour en faire quelque chose. Alors, si c'est légitime, ben, institutionnalisons-le.
C'est ça.
Ouf, ça a été difficile,
c'est bon.
Ça a bien des consonnes. Mais ceci dit, donc, c'est pour ça. Et moi, ça me fascine parce que on voyage de plus en plus. Moi, je suis probablement au Québec le plus vieux fan de Taylor Swift. J'ai toujours adoré cette fille-là. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un talent incroyable.
T'es-tu en train de nous faire un coming out?
Oui, c'est un coming out.
T'es-tu un Swiftie?
J'étais un vrai Swiftie.
Pierre Nantel est un Swiftie, mesdames
Écoute,
et messieurs.
Ça remonte à Tears on My Guitar sur le premier album. Mais évidemment, comme tout le monde,
T'as-tu
j'ai
acheté
découvert...
T'as acheté tes billets pour Toronto?
Non, malheureusement. Mais je dois dire que j'ai des raisons pour ça. Parce que moi, j'aime beaucoup Taylor Swift au niveau de son écriture de chansons. Le rendu un peu Las Vegas de sa façon de faire.
Moins toi?
Moins, pas mal moins. Fait que, mais ceci dit, c'est pas grave, elle est très, très bonne. Mais ceci dit, on a aussi beaucoup tapé sur la tête de Taylor Swift parce que le prix, c'était quand même spectaculaire. Pour des raisons d'amour, elle a voulu quitter, je pense qu'elle était à Hong Kong, parce qu'elle allait à Las Vegas. Puis après ça, elle retournait genre en Australie. Alors c'était épouvantable en termes d'utilisation de carburant, de kérosène. Mais ceci dit, on n'aurait jamais tapé dessus aussi fort. Ça va pas être une fille, hein? C'est comme facile à taper dessus. Il y avait, dans le parking à Las Vegas, il y avait, je pense, 1000 avions.
Ben
1000
oui.
avions privés. Puis il y en a comme 24 000 dans le monde. C'est pas pour rien que Bombardier est encore dans le secteur. Ça marche. Alors, on a vraiment cassé du sucre sur le dos de Taylor Swift. Mais ceci dit, la réalité, c'est que tout usage comme ça, qui est reconnu comme étant polluant, mériterait d'avoir une forme de systématisation parce que quand tu veux prendre, je te montrais ça, j'avais déjà pris un ce qu'on appelle offsetter mes gaz à effet de serre. J'avais donc j'ai acheté une compensation carbone. Il faut vouloir le faire, alors que, comme les pneus, comme la viande rouge, comme le recyclage, on le sait qu'il faut le faire, mais on ne l'a pas intégré et je trouve ça vraiment déplorable parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je vais sur
Air Transat... Mais pourquoi cette culpabilisation, Pierre? À chaque fois qu'on va faire quelque chose, il va falloir qu'on compense quelque part?
Ben parce qu'il le faut, c'est tout. Au niveau sociétal, il faut qu'on fasse face à la crise climatique. Que toi, tu te sentes coupable de ça, ça ne marche pas. Parce que la loi, les systèmes devraient te prémunir de ce sentiment de culpabilité en disant « Si tu prends l'avion, ça coûte plus cher parce que ça pollue beaucoup. » Point. Puis si tu as les moyens d'y aller, ben, tu as les moyens de payer 50$ de plus, c'est pas beaucoup cher. Honnêtement, là, un aller-retour Paris, en gros, c'est entre 25 et 75$. Parce que, en plus, ça aussi, c'est flou. Comment on calcule les compensations? Mm-hmm. C'est vraiment toute une science. Puis c'est pas à la portée de tout le
ça
monde.
Ça va où, cet argent-là? Payer,
très intéressant,
bien.
Très intéressant. Le Protégez-vous a fait une étude là-dessus et il y a différentes offres. Il y a Choose, par exemple, qui est le fournisseur de crédit carbone pour Air Transat et Air Canada, si je ne me trompe pas, qui fait partie des fournisseurs de services. Et Protégez-vous a évalué qu'il y en avait des bons puis des moins bons au niveau de leur projet, au niveau d'actuel investissement de ton argent à faire des projets.
Mais ils plantent des arbres?
Ils peuvent, par exemple, planter des arbres, mais il y a beaucoup, si on va voir sur le site de Planétaire, il y a beaucoup de forfaits. C'est comme si tu achetais des actions. Fait que tu peux avoir d'acheter ton crédit carbone dans un fonds qui va plus s'investir partout dans le monde.
Ça, c'est des environnementalistes capitalistes.
Non, vraiment pas. Mais je te comprends. Je comprends qu'on est allé d'entendre parler.
Paye-nous, puis regarde, ta conscience est tranquille.
Ah oui, ça par contre, tu as tout à fait raison. La plupart des gens, Colin Thorpe à Équiterre, va te dire, arrêtez-moi ça, c'est vraiment du greenwashing. Si vous achetez plein de billets d'avion parce que vous achetez vos compensations, vous pensez que vous êtes correct, bien non, c'est problématique de prendre l'avion. Faut juste, si on convient que c'est très polluant de prendre l'avion, qu'idéalement, on devrait modérer nos transports, là, c'est le cas de le dire, c'est même pas figuré. Mais si c'est le cas, bien, embarquons dans les crédits carbone puis arrêtons d'emmerder les gens avec ça. Incluons-les dans les prix. Parce que, comme tu l'as bien dit, on inclut de plus en plus de choses.
Ah oui.
Ou à tout le moins, on pourrait dire, oui, mais on n'inclut plus les bagages. Ça, c'est vrai. Mais si on ajoute des choses, alors, ayons le choix de opter out. J'aime bien l'expression anglophone là-dessus. C'est-à-dire qu'on est inscrit d'office.
C'est des comme,
mais si tu ne veux pas payer ton crédit carbone, là, c'est un choix. Tu choisis au moins...
De te retirer.
Tu choisis de te retirer. Mais encore une fois, c'est individualiser les responsabilités alors que c'est nos systèmes, nos gens politiques qui devraient nous aider à faire ce choix collectif. Tout le monde convient qu'il y a un problème. On s'entend que le climat, c'est pas drôle. Fait que ça va de soi que si tu t'achètes une Corvette avec un moteur 4 barils ou une Hellcat qui a 800 HP dans le capot, là, ça se peut que je te surcharge. Parce que toi, tu as peut-être les moyens parce que ton père a une station-service. Mais globalement... On l'a plus.
Moi, le jour où on va commencer à s'attaquer aux industries qui, elles polluent pour vrai, même si moi, je mange du tofu matin, midi, soir, puis je prends ça avec des noix comme collation, puis je prends mon bicycle, ça va pas vraiment faire une différence. Mais les industries, elles...
Tu as 100% raison. D'ailleurs, tu sais, moi, la première fois que je t'ai rencontré ici, cette année, parlez à vos députés. Point. Vous avez une préoccupation. Ouais. Toi, tu dis ça, là. Toi, tu as une tribune, tout le monde t'aime, c'est parfait. Mais quelqu'un qui tout ça dans sa cuisine, qui dit, ben là, moi, je suis tanné de payer des crédits carbone quand je sais que, mettons, la fonderie Orme.
Ouais.
Appelle ton député, écris-lui. Le courriel, c'est merveilleux. Mais surtout pour les communications avec les députés et les élus.
Le pouvoir infini du courriel. Pierre Nantel, merci beaucoup.
Quel tombe griné. Bye.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Les progressistes conservateurs à la Mulroney devraient quitter le Parti conservateur du Canada. C'est ce que dit un ancien militant conservateur dans une lettre ouverte qui a été publiée cette semaine dans la presse. On en parle avec lui, Michael Hanelfeld. Excusez-moi si je massacre votre nom de famille. Vous êtes un professionnel des politiques publiques et militant au Parti progressiste conservateur en 98 et 2003. Merci beaucoup. Pourquoi les militants progressistes conservateurs devraient quitter le Parti conservateur du Canada?
Madame Abdel-Fadel, d'abord, merci de m'avoir accueilli à votre émission. La raison pour laquelle les progressistes conservateurs devrait quitter l'actuel parti conservateur, c'est que l'actuel parti conservateur est trop similaire à l'ancien parti réformiste et à l'ancienne Alliance canadienne. L'actuel parti conservateur est un parti de droite populiste, de droite réactionnaire, qui ne représente pas vraiment les valeurs de l'ancien parti progressiste conservateur. Ça, ce sont les raisons principales pour laquelle j'ai fait cette recommandation, cette demande aux progressistes conservateurs.
Est-ce que vous pensez que le Parti conservateur du Canada sous Pierre Poilievre est différent du Parti conservateur du Canada sous Stephen Harper?
Non, c'est le même parti. Stephen Harper et Pierre Poilievre sont des anciens membres du Parti réformiste. Les deux, Harper et Poilievre, appartiennent à une droite populiste et une droite réactionnaire qui est très différente de l'ancien parti progressiste conservateur.
Vous les appelez à quitter le Parti conservateur du Canada parce qu'ils ne représentent plus les valeurs progressistes conservatrices qu'a notamment porté Brian Mulroney ou Jean Charest qui lui a succédé. Mais pour aller où? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'option de centre-droit sur l'échiquier politique canadien.
Vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a pas cette option. Mais le Canada, et non seulement le Canada, mais tous les pays démocratiques ont besoin d'une option de centre-droite modérée qui soit capable de faire valoir, de proposer des solutions qui soient conservatrices, mais encore dans un cadre démocratique qui respecte les normes démocratiques d'une société, oui, d'une société qui veut faire des progrès, oui.
Vous parlez de finalement. Parce que c'est un choix démocratique aussi, là, l'élection de Pierre Poilievre, il y a eu une course au leadership et c'est une des plus éclatantes victoires dans une course au leadership qu'a eu M. Poilievre. Donc, il exprime tout de même une volonté d'une population qui ne se trouve pas de porte-parole. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est continuellement à la recherche d'un porte-parole. Il y a ceux qui sont plus à droite, plus populistes, qui trouvent en Pierre Poilievre le bon porte-parole, et il y a ceux de centre-droit qui ne trouvent personne pour les représenter. Est-ce qu'on est condamné, finalement, à toujours avoir des orphelins politiques?
C'est une très bonne question, et je n'ai pas une réponse facile. Mais ce que je crois, c'est que le Canada a besoin, et désespérément, et nous avons besoin d'un choix de centre-droite modéré. Et oui, il y a beaucoup d'orphelins, par exemple comme moi, mais on doit encore essayer de trouver de meilleures solutions et d'améliorer notre système politique et d'offrir plus d'options aux citoyens. Pour l'instant, oui, nous sommes des orphelins, oui.
Que pensez-vous? Parce que évidemment, il y a les conservateurs qui pourraient sortir du. En fait, il y a les progressistes conservateurs qui pourraient sortir du PCC d'aujourd'hui. Qu'en est-il du Parti libéral? Le Parti libéral qui a pris un virage à gauche. Pensez-vous qu'un prochain chef du Parti libéral pourrait revenir à une tradition plus de centre-gauche, voire de centre, et même oser s'élargir dans une tente plus large au milieu du centre, donc avoir du centre-droit et du centre-gauche au sein de son équipe?
Si le parti libéral, ça serait une bonne chose si le prochain chef du Parti libéral peut faire des politiques modérées et des politiques qui peuvent rassembler plus de gens.
Fiscalement responsable, comment ça, comment fiscalement, par ça?
Oui, plus, plus fiscalement responsable, mais ça ne change pas le fait qu'on aurait encore besoin d'un parti à droite du centre qui soit encore modéré. Alors cet espace du centre-droite ne peut pas être occupé par les libéraux.
Quand vous dites modéré, qu'est-ce que vous voulez dire par modéré? Modéré sur le plan social, sur le plan économique, sur quel plan?
Sur tous les plans, mais modéré, ça veut dire que l'approche vers la politique sera prudent, sera solidaire, sera on essayait de faire les choses de façon qui rassemble les gens, d'écouter les gens, et de ne pas être idéologique ou de ne pas être intolérant. Alors, il nous faut un parti conservateur modéré, de centre-droit, qui peut être pragmatique et prudent. On a besoin d'une alternative. Ça ne peut pas être seulement... Si les libéraux essaient d'occuper l'espace de centre-droit, ça aura le risque d'éliminer une option conservatrice modérée.
Quel avenir vous donnez au Parti conservateur actuel? Est-ce que vous pensez que la popularité actuelle va finir par finalement tomber et qu'on va revenir à un parti comme un bloc de l'Ouest, là, à défaut d'avoir un bloc canadien, on aurait un bloc de l'Alberta?
C'est une possibilité. Je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qui va se passer avant les prochaines élections fédérales. Je pense que pour l'instant, oui, c'est vrai que Monsieur les conservateurs et Monsieur Poilievre ont monté dans les sondages, mais la capacité de Monsieur Poilievre d'élargir sa base est très limitée. Parce qu'il vient d'une tradition populiste, réactionnaire, contestataire, oui. Alors, sa capacité de rassembler des gens dans les banlieues de Toronto ou au Québec, oui. C'est limité, oui.
C'est sûr, évidemment, on va continuer à surveiller ça. Il manque de plus en plus plusieurs personnes se retrouvent orphelines politiques. Et en ce jour de célébration des funérailles de Brian Mulroney, plusieurs personnes le regrettent puisqu'il représentait finalement ce qui était de plus rassembleur au Canada. Michael Hunfeld, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Madame Adelfader. Bonne journée.
Au revoir. Je retrouve Alexandre Moranville-Ouellette. Alexandre, Kate Middleton qui a annoncé à travers une vidéo aujourd'hui qu'elle souffrait d'un cancer, qu'elle a appris ça dans des circonstances particulières, parlons-en.
Parce que là, on comprend. Là, elle a eu une opération abdominale là, dans les derniers mois. Ça, c'était quelque chose qui était su et connu. Et à ce moment-là, bien, on savait pas qu'elle avait un cancer. Là. C'était pas quelque chose qui avait un lien avec le cancer en question. On dit que c'est pendant l'opération à la mi-janvier, bien, on s'est aperçu qu'il y avait une anomalie. On aurait fait des prélèvements, des tests, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y aurait présence d'un cancer. Là. C'est pas dit directement c'est quoi le cancer qu'elle a, mais on peut quand même là, supposer que si on est en région abdominale, bien, ça pourrait être un cancer de l'estomac, intestin, quelque chose dans ce coin-là, Yasmine, on se comprend. Donc, ça pourrait être le pancréas aussi, tu sais, ne sait-on jamais. Donc, voilà, ça va être un cancer qui va devoir être traité. On dit qu'elle vient de commencer un traitement de chimiothérapie. Et là, ben, les réactions se sont faites entendre de partout dans le monde, Yasmine. On le sait, vous aimiez ou vous aimiez pas la famille royale britannique, ça monopolise de l'attention à la grandeur du globe.
C'est une éclipse médiatique.
Exact, c'est une éclipse médiatique qui vient d'arriver. Et là, ben, on a eu des réactions, là, déjà du côté, là, de la porte-parole de la Maison Blanche, là, Mme Karine Jean-Pierre, qui a parlé là, dès son point de presse tout à l'heure en disant que c'était de terribles nouvelles d'apprendre qu'elle avait un cancer. Et du côté du Royaume-Uni, bien évidemment, le premier ministre, là, Rishi Sunak, qui lui aussi a déploré cette nouvelle-là. Mais il y a aussi, puis j'ai trouvé ça intéressant, la personne qui est en charge au Royaume-Uni de tout le système de santé, là, l'espèce de England National Health Service, là, qui a parlé, Mme Amanda Pritchard, qui est la chef de tout ça, comme c'est l'équivalent de la médecin en chef, si on veut, okay, du Royaume-Uni, qui est sorti en disant mais que c'est excessivement courageux d'aller faire ce genre de dévoilement-là, si on veut. Grand média, on le sait, tout ce qu'il y avait comme secret qui entourait la famille royale, puis surtout Kate Middleton depuis un petit moment, mais c'était un nid, là, un terreau fertile, à théorie du complot, à spéculation. Donc, a décidé de faire une sortie comme ça pour faire taire les rumeurs, puis expliquer hors de tout doute ce qu'elle a. Mais quand même, du côté de la médecin en chef, on dit ça prend beaucoup de courage, on va la traiter comme on peut avec tout ce qu'on a comme moyens médicaux. Pour le reste, ce sera à voir. Là, un traitement de chimiothérapie, c'est jamais facile, mais on dit qu'elle est au début donc des traitements.
Évidemment, nos pensées l'accompagnent, là, comme n'importe quel être humain qui vit une souffrance, mais au-delà de ça, je pense aussi à son mari, le prince William, qui a un père qui souffre d'un cancer, une épouse qui souffre de cancer, sa mère est décédée et son frère, il est en...
Ouais, son frère.
Comme quoi, tu as beau être prince héritier là, d'une des monarchies les plus vieilles, là, il y a de ces malheurs qui viennent frapper pareil dans ta porte et qui viennent... qui ne peuvent pas compenser, là.
Absolument pas. Il y a personne qui est à l'abri, malheureusement, de mauvaises nouvelles comme celle-là. Donc, c'est une éclipse médiatique. On lui souhaite le meilleur au travers de tout ça. Puis, il y a fort à parier, de toute manière, que les tabloïds, les journaux britanniques puis les médias de la planète vont continuer de couvrir ça avidement.
Espérons le plus prompt des rétablissements pour Kate Middleton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.